Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Fin février, le Parlement pro-russe de la région séparatiste moldave de Transnistrie a demandé à la Russie la protection contre les pressions subies selon elle de la part du gouvernement moldave. Cet appel auquel s'est ajouté en mars celui de la Gagaouzie, autre région moldave, n'a pas manqué de susciter les plus fortes inquiétudes en Moldavie et en Europe, faisant craindre une possible extension de la guerre. Pour l'instant, Moscou ne s'empresse pas de répondre à ces sollicitations et la guerre en Ukraine a rendu la situation économique moins favorable à la Transnistrie. Quels sont les scénarios possibles pour le développement de ce conflit non résolu depuis plus de trois décennies? Quelles sont les craintes d'une invasion russe? La question prend tout son sens en Moldavie alors que l'Ukraine peine à repousser les troupes russes. L'enjeu est d'éviter le pire, que la Russie perce le front ukrainien, notamment en direction d'Odessa. Depuis cette ville portuaire clé dont la chute marquerait un revers énorme pour Kiev, la marche sur la Moldavie ne serait qu'une question de temps. Depuis février 2022 et l'offensive russe en Ukraine, le sort de la Moldavie est devenu une source de préoccupation. Cette ancienne province de l'Empire tsariste, devenue roumaine après la Première Guerre mondiale, puis intégrée de force dans l'URSS après 1945, représente un réel enjeu stratégique. Regard avec nos invités par téléphone. Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO, chercheur associé au CREE, le Centre de recherche Europe-Asie de l'INALCO, rédactrice en chef de Regards sur l'Est. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po, auteur de Les chemins de l'état de droit et co-auteur avec Josette Durieux de La Moldavie et la croisée des mondes. Bonjour.
Bonjour.
La Moldavie, ce sont 2 600 000 habitants, un pays enclavé entre la Roumanie et l'Ukraine, une ex-république soviétique très majoritairement roumanophone qui ne bénéficie pas de la protection de l'OTAN, ni ne focalise l'attention des Occidentaux, avec deux provinces qui font spécialement parler d'elles et au statut légèrement à part, la Transnistrie à l'est qui borde l'Ukraine, et puis la Gagaouzie au sud. La Gagaouzie, c'est 150 000 habitants, l'une des régions les plus pauvres de Moldavie, une région autonome depuis 1994, et a donc gardé des liens profonds avec la Russie. Laurent Parmentier, que veulent dire ces demandes d'aide à la Russie émanant de la Transnistrie d'une part et de la Gagaouzie d'autre part?
Je pense qu'il faut bien regarder les situations comme deux situations différentes. La première, donc le cas de la Gagaouzie, est le cas d'un territoire qui, depuis 1994, a été réintégré au sein de la Moldavie. Réintégré, ce qui veut dire qu'en substance, elle fait partie du territoire reconnu internationalement. Non seulement ça, mais en plus, elle rencontre à Chisinau, c'est-à-dire aux autorités moldaves. Donc il y a, de ce point de vue-là, depuis 1994, un arrangement territorial, et on parle de l'unité autonome de Gagaouzie, qui, donc cette unité territoriale autonome, eh bien, tout simplement vit selon les règles de Chisinau, avec des particularités locales.
Chisinau, donc la capitale de la Moldavie.
De l'autre côté, la Transnistrie est un territoire séparatiste, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas l'autorité de Chisinau et qu'elle dit en substance depuis 1992, eh bien nous sommes dans un processus de négociation sous l'égide de l'OSCE dans le cadre d'un format de négociation particulier, dit le 5 puis 5 plus 2, puisqu'il y a deux observateurs, il y a dans ce format de négociation 5 acteurs, l'OSCE qui chapeaute
donc l'Organisation de sécurité.
La sécurité et de la coopération en Europe, qui chapeaute un peu l'organisation de la négociation de la résolution du conflit. La Russie, l'Ukraine, la Moldavie et la Transnistrie. Donc on a ces 5 acteurs, plus 2 observateurs, les États-Unis et l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le cas de la Transnistrie. Depuis le cessez-le-feu du 21 juillet 1992, nous sommes dans une situation où il y a des négociations qui sont en cours. Et on peut regarder la chose soit comme un verre à moitié plein, soit comme un verre à moitié vide. Si vous regardez le verre à moitié vide, alors cela fait plus de 3 décennies que nous n'avons pas trouvé de résolution à un conflit en Transnistrie qui n'est pas le plus compliqué de l'espace post-soviétique. On pourra expliquer pourquoi dans quelques secondes. Si on regarde le verre à moitié plein, on pourra se dire qu'il y a eu un accident à la frontière au cours de 30 ans, et donc que c'est un conflit séparatiste qui a fait depuis le 21 juillet 1992, en tout et pour tout, un mort à la frontière sur un accident qui n'est pas majeur. L'essentiel, je pense qu'il faut retenir dans ce conflit, c'est que ce conflit est jusqu'au début de la guerre en Ukraine, quelque chose qui n'entre pas dans les préoccupations prioritaires des Moldaves. Je ne connais pas beaucoup de Moldaves qui se réveillent chaque matin en disant qu'il faut absolument résoudre ce conflit transnistrien, ou au contraire qu'il faudrait le réanimer. C'est plutôt éloigné, en réalité, des préoccupations quotidiennes des Moldaves. C'est vraiment l'arrivée, l'avènement de la guerre en Ukraine qui précipite en quelque sorte et qui interroge de ce point de vue-là. C'est là qu'il faut comprendre ce que vous mentionniez au tout début, à savoir cette réaction au 28 février dernier en Transnistrie, d'appel des autorités transnistriennes aux députés de l'ensemble des niveaux, comme ça que ça a été appelé, avec une idée qui était effectivement d'appeler la Russie à l'aide pour des motifs très spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, Vladimir Poutine devait prononcer son discours sur l'état de l'Union et que le discours sur lequel on attendait, et très vraisemblablement beaucoup de gens en Moldavie, y compris à la présidence de la République moldave, attendaient de savoir ce que Vladimir Poutine allait dire sur le cas de la Transnistrie. Est-ce qu'il allait vers la reconnaissance de l'indépendance de la Transnistrie? Est-ce qu'il allait vers toute autre évolution de la situation? Et en réalité, il n'a pas été question de Transnistrie. Autrement dit, cet appel côté transnistrien, eh bien, c'est l'appel à la fois un acteur international, mais c'est aussi un moyen, très certainement, eh bien, d'envoyer des messages à Chisinau, donc aux autorités moldaves, au moins autant qu'à la Russie.
Alors, votre regard à vous, votre commentaire, Céline Bayou, en réaction peut-être à ce que vient de dire Florent Parmentier, et puis d'autres éléments que vous pouvez ajouter?
Oui, tout ça me paraît très, très clair, ce qu'a présenté Florent. Ce que je pourrais peut-être ajouter, le fait que Moscou n'ait pas répondu sur le moment me paraît assez, assez logique, et je pense que ça ne préfigure pas la suite. C'est-à-dire que Moscou pourra réactiver ça au moment où il le voudra, et on sait que le Kremlin sait faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le cas de la Gagaouzie, puisque Florent parlait du 28 février avec l'appel de la Transnistrie, et le 1er mars, on a en Gagaouzie, donc la nouvelle, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais enfin, Evgenia Goutsoul, qui est la gouverneur de la Gagaouzie, qui a été élu en mars 23, et qui est représentante du parti Shor, qui est un parti réputé pro-russe, hein, d'un oligarque, Ilan Shor, qui est pro-russe. Il se trouve que Evgenia Goutsoul, le premier, est allée à Moscou. Elle a rencontré Matvienko, qui est la présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Je crois qu'elle a croisé aussi Vladimir Poutine, et elle a évoqué en fait une oppression sur la Gagaouzie venant de Chisinau. Donc c'est un autre appel à l'aide et au soutien qui n'a pas pour le moment donné lieu à une réaction stratosphérique de la part de Moscou. Mais pareil, on sait très bien que Moscou peut avoir l'intention de réactiver ça quand il voudra. Et surtout ce que ça veut dire en fait, et dans les deux cas je crois, c'est, pour moi ça entre vraiment dans la perspective des attaques hybrides ou des menaces, des risques de déstabilisation de la Moldavie par la Russie, par des biais en effet hybrides et notamment ces agitations politiques.
Alors Florent Parmentier, il est évident que fabriquer une menace sur une population comme prétexte à une invasion, c'est un scénario bien connu. Qu'est-ce que l'on sait des intentions russes actuellement, à la fois sur la Transnistrie, vous avez dit quelques mots, et sur la Gagaouzie?
Sur la Transnistrie, je pense qu'il faut regarder les 30 ans qui viennent de s'écrouler, autrement dit depuis l'indépendance de la Moldavie, et depuis la fin de ce conflit. En réalité, depuis la fin de ce conflit, la Russie peut avoir il y a deux hypothèses que l'on peut faire. Soit la Russie veut reconnaître une forme d'indépendance de la Transnistrie ou de rattachement, c'est une première hypothèse. Soit la Russie essaie plutôt de s'appuyer sur la Transnistrie pour contrôler l'ensemble de la Moldavie. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ans, je pense que la réponse à laquelle on peut venir de manière assez consensuelle, c'est que depuis 1992, la politique de la Russie a plutôt été de s'appuyer sur la Transnistrie pour essayer de contrôler le reste de la Moldavie. Autrement dit, ça s'appuie effectivement comme perspective politique sur l'idée que la Transnistrie peut être un moyen en quelque sorte de contrôler l'ensemble de la Moldavie, et quitte à déstabiliser son pouvoir actuel, la présidente Maia Sandu étant considérée de manière assez hostile à Moscou, et réciproquement, j'ai envie de dire. Il y a de ce point de vue-là, voilà un état des relations historiques qui est probablement au plus bas depuis 1992, à quelques exceptions près. Mais disons que ce que la guerre en Ukraine a fait dans la relation a été tout à fait observable. Si on considère que la Russie a plus comme perspective d'utiliser la Transnistrie et la Gagaouzie selon différentes modalités pour contrôler l'ensemble de la Moldavie, alors je pense qu'on comprend mieux les réactions sur place. Autrement dit, si on regarde la situation de la Transnistrie aujourd'hui, la vraie question est celle du que se passerait-il si la ville d'Odessa était effectivement menacée de l'invasion russe. Dans ce cas précis, si les soldats russes et l'armée russe devaient avancer jusqu'à Odessa, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, on est encore assez éloigné de cette perspective, mais que l'évolution des fronts n'est pas, j'allais dire, difficilement connaissable à l'horizon de 6 mois. Eh bien, en fonction de d'où se trouvera le front de l'armée russe, alors effectivement, je pense que Céline Bayou a raison de le souligner, ce conflit pourra être soit réactivé, soit tout simplement utilisé. Et si si l'armée russe est à la frontière de la Transnistrie, alors, je dis encore une fois si, parce que pour l'instant on n'y est pas, on peut craindre que la Russie, dans ce cadre-là, proposera une forme de constitution nouvelle pour résoudre le conflit transnistrien. Ce qui ne veut pas dire nécessairement aller au conflit avec la Moldavie. Ce serait pas, je pense que l'issue ne laisserait pas grand doute, mais en tout cas, on aurait cette possibilité, effectivement, qui est de la part de la Russie de tenter de peser définitivement et de, en quelque sorte, d'inverser tous les efforts et les progrès qu'a pu réaliser la Moldavie au cours des dernières années.
Voilà, on en reparlera. À cela s'ajoute, Céline Bayou, je me tourne vers vous, donc, le fait que 1500 soldats russes se trouvent aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années en Transnistrie. Qu'est-ce que l'on peut dire de la capacité de nuisance de ces soldats russes et dans ils sont payés par la Russie, bien sûr, mais voilà, à quoi occupent-ils leur journée, les 1500 soldats russes en Transnistrie aujourd'hui, Céline Bayou?
Alors c'est une excellente question que je me pose régulièrement. À quoi ils occupent leur journée? J'en sais strictement rien. Je pense visiblement pas à grand-chose de ce qu'on sait. Donc ils sont en effet à peu près 1500 qui composent une partie de ce qu'on appelle l'armée transnistrienne. Et ils ont différents rôles, mais notamment il y a une partie d'entre eux qui sont dédiés à la surveillance d'un dépôt d'armes, d'un dépôt de munitions qui est là, enfin qui date de la période soviétique et où on parle à peu près, je crois, 20 000 tonnes de munitions. En fait, on ne sait pas trop et surtout on ne sait pas du tout dans quel état sont ces munitions, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont utilisables ou pas, est-ce qu'elles pourraient servir à quelque chose, est-ce qu'elles représentent un danger ou pas. En tout cas, ce que je note, c'est que quand Maya Sandu a été élue fin 2020, elle a eu dans un premier temps une approche assez frontale sur la question de la Transnistrie et en reprenant une demande qui est faite depuis très longtemps par Chisinau de retrait de ces 1500 hommes et retrait qu'on vide et qu'on débarrasse la Transnistrie de ce dépôt d'armes, ce qui était un engagement qui avait été pris d'ailleurs il y a quelques années et qui n'a jamais été rendu effectif par la Russie. Elle a été assez frontale dans un premier temps et puis je pense qu'elle a un petit peu revu son approche pour être un petit peu plus sur une approche de négociation. Rien ne bouge. Ce qui est très notable, c'est que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, l'invasion de grande ampleur par la Russie, cette armée transnistrienne, enfin en tout cas les 1500 hommes russes, n'ont pas bougé. Et de ce qu'on sait, ils ne sont pas vraiment relevés, parce que l'accès n'est quand même pas très simple pour Moscou. Ils sont visiblement mal entraînés, mal équipés et vraisemblablement très peu motivés. Et je pense que leur intérêt à eux, c'est que sans doute les choses ne bougent pas trop. Je ne pense pas qu'ils aient une grande appétence à être entraînés dans le conflit en Ukraine, qui est quand même juste à côté. Hein, je veux dire, potentiellement, ça serait tout à fait... Enfin, on aurait pu en tout cas craindre au début de cette guerre qu'ils soient activés. On ne les a pas du tout vus bouger, on n'en entend pas trop parler. Ce qu'on entend du côté de la Russie et notamment des propagandistes autour du Kremlin, ceux qui sont dans un discours escalatoire permanent, et que je trouve aussi très notable, c'est ils agitent la menace d'une potentielle invasion de la Transnistrie par l'Ukraine. Alors ce qui nous paraît comme ça d'emblée assez absurde, parce qu'on se dit que sans doute les Ukrainiens ont quand même d'autres priorités priorité en ce moment que d'envahir la Transnistrie. N'empêche que ce discours, il est, on l'entend à Moscou parfois, je ne dis pas forcément de la part des autorités, quoique, de certains représentants, oui. Et ce qui pourrait être une façon, en fait, de justifier une action de Moscou contre la Transnistrie à un moment donné, même si je ne pense pas qu'elle en ait, enfin, que Moscou en ait les moyens, ni que ce soit une priorité aujourd'hui, mais en tout cas, on ne peut rien exclure. Et comme le disait Florent Parmentier, le risque, c'est Odessa. C'est-à-dire que si jamais Odessa tombait, on sait que dans les ans, enfin, la façon dont Poutine voit les choses et avec tout son rêve de Novorossiya, la nouvelle Russie, etc., qui inclurait donc toute la partie sud de l'Ukraine, c'est-à-dire toute la partie façade maritime, la Transnistrie vraisemblablement en ferait partie. Là, je ne dis pas que c'est un scénario à retenir, parce que je pense qu'il est très peu probable, mais je pense que dans la tête de certains à Moscou, c'est quelque chose qui est envisagé. Donc du coup, la Transnistrie reste quand même un enjeu. Et de toute façon, même sans aller jusque-là, c'est un enjeu parce que la Moldavie est maintenant autorisée à commencer les négociations d'adhésion à l'UE et qu'à un moment donné, cette question va devoir être posée au sein de l'UE même. Quid d'une Moldavie qui avancerait sur des négociations, mais qui a quand même un problème avec une partie de son territoire qui est occupée.
Tout à fait. Alors, je pensais parler de l'Union européenne avec tout ce que la présidente de Moldavie est en train d'organiser. Je reste encore un tout petit peu sur la question de la Gagaouzie et de la Transnistrie. Florent Parmentier, avec cette double question. D'abord, pourquoi est-ce que la Russie ne reconnaît pas l'indépendance de la Transnistrie? Et il semblerait que, alors pour la Gagaouzie, c'est donc une région autonome depuis 1994 et qui a gardé des liens profonds avec la Russie, on évoque l'idée que Moscou pourrait préférer la fenêtre gagaouze à la porte de la Transnistrie pour exercer son influence en Moldavie. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et que dire aussi des relations entre à la fois la Transnistrie et Kissino et également la Gagaouzie et Kissino?
Sur ces différentes questions, pourquoi la Russie ne cherche pas à reconnaître l'indépendance? Il est vrai qu'elle a été sollicitée plusieurs fois par les autorités transnistriennes lors des référendums en 2006 à plusieurs reprises. Je pense que la réponse est très simple, à savoir reconnaître la Transnistrie en tant que telle qui ne fait que 4000 km² et qui est un territoire enclavé, ne fait pas vraiment sens. Elle fait encore moins sens dans un contexte entre la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Donc il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de ce point de vue-là de la part de la Russie. Il vaut mieux laisser en quelque sorte cette zone d'incertitude à l'ouest en rappelant effectivement que le 24 février 2022, personne de Transnistrie n'a bougé pour aller vers le territoire ukrainien. Et c'est important à noter, tout simplement parce qu'il y a eu une attaque d'un peu partout, du nord, depuis la Biélorussie, depuis la Russie, depuis le territoire ukrainien occupé par la Russie depuis 2014. Mais il n'y avait eu rien. Pas une seule personne, finalement, n'a bougé depuis la Transnistrie vers le territoire ukrainien. Il y a eu des débats et des moments. Ce débat a été pris non seulement en Russie, comme cela a été souligné, mais également en Ukraine. Faut-il que nous débarrassions de ce point qui peut être problématique? Et de ce point de vue-là, il y a eu des hypothèses, des ballons d'essai qui ont été lancés par l'Ukraine auprès de Maia Sandu et des dirigeants moldaves qui n'ont pas voulu envisager cette hypothèse. C'est un conflit, encore une fois, dont on peut estimer que de tous les conflits post-soviétiques, c'est probablement celui qui est le plus simple de résoudre, pour une raison simple. La Transnistrie, comme la Moldavie, sont peuplées de populations romanophones, moldaves, sont peuplées d'Ukrainiens, sont peuplées de Russes dans les deux cas. Donc il n'y a pas d'ethnie transnistrienne qui aurait au nom d'un droit historique une particularité qui justifierait en fait son indépendance. On est sur quelque chose qui est plutôt transactionnel. Donc la question est plutôt celle de quelle est la capacité des élites à faire un accord sur le futur destin de la Transnistrie. Et là on voit on commence à avoir des fissures entre un appareil d'État sécuritaire qui est fidèle à Moscou et des acteurs économiques qui, eux, sont plutôt intéressés par les perspectives d'intégration européenne que l'on évoquera tout à l'heure.
Et que l'on abordera effectivement après le journal. On vous retrouve, Florent Parmentier, je vous promets, je vous redonnerai la parole avec Céline Bayou après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Moldavie, nous retrouvons nos invités par téléphone. Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO, chercheur associé au CREE, le Centre de recherche Europe-Asie de l'INALCO et rédactrice en chef de Regard sur l'Est. Et Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po, auteur de Les chemins de l'état de droit et co-auteur avec Josette Durieux de la Moldavie à la croisée des mondes. Florent Parmentier, je vous ai coupé la parole pour laisser la place au journal. Je vous retrouve. On évoquait la question, bien sûr, de ces deux régions au statut un peu particulier que sont la Transnistrie et la Gagaouzie. Vous nous disiez que la Transnistrie, finalement, c'était n'est pas le conflit le plus compliqué de l'ère post-soviétique. Quelques mots sur la Gagaouzie.
La Gagaouzie. Nous sommes dans le sud de la Moldavie, une région qui est généralement plus défavorisée économiquement que le reste du pays. Région où, précisément, donc les Gagaouzes ont une forme d'autonomie et des liens privilégiés avec la Russie lors des élections précédemment évoquées de l'an passé. Pour l'élection de ce qu'on appelle la Bashkane, c'est-à-dire la gouverneure de Gagaouzie, sur 8 candidats qui avaient été retenus pour faire campagne, on peut estimer que 7 étaient pro-russes et le dernier était un peu timidement pro-européen, mais ce timidement pro-européen est arrivé en tout dernier. Donc il y a de ce point de vue-là, il y avait d'ailleurs dans cette campagne électorale deux finalistes, l'un du parti Shor qu'on a évoqué, qui Akishino est l'un des plus actifs partis de l'opposition en lien avec la Russie, puisqu'il est question de financement relativement important, notamment pour toutes les manifestations qui ont lieu par le parti Shor. On évoque des sommes tout simplement de 15 euros par heure de
présence,
par heure de manifestation, etc. Donc on a là-dessus des témoignages relativement précis. Et puis en face, c'était le parti des socialistes de la République de Moldavie qui est également dans l'opposition, qui est également plutôt considéré, même si les étiquettes doivent être relativisées, comme étant proches de la Russie. Donc on a effectivement cette situation où les Gagaouzes seront amenés à voter au sein des prochaines élections. On ne sait pas ce qu'il sera du taux de participation réel de la Transnistrie. Ce qu'il faut voir, c'est que lors des dernières présidentielles russes, cette fois-ci, sur les 200 000 citoyens avec un passeport russe recensés en Transnistrie, on estime qu'environ 40 000 avaient fait le déplacement. Donc, en réalité, moins de 20% des Transnistriens avec un passeport russe sont allés voter, ce qui est un taux relativement faible. Si l'on regarde un peu les différents paramètres, il n'est pas certain, en fait, que dans les présidentielles moldaves qui s'annoncent en novembre prochain, ils se soient davantage mobilisés. En revanche, ce qui est certain, c'est que lors des précédentes élections de 2020, électoralement, la Transnistrie avait voté largement pour la personne qui était en face de Maia Sandu, mais dans des proportions qui étaient finalement moins importantes que la Gagaouzie, qui reste assez hostile à la personne de Maia Sandu. Donc on a de ce point de vue-là, effectivement, dans les futurs déterminants du vote, je pense que du côté de la Russie, la question est à la fois de savoir effectivement si Maia Sandu confirme sa présence à la tête de la présidence de la Moldavie en novembre prochain, ou de savoir si elle est en quelque sorte fragilisée à l'issue des élections. Puisque derrière les élections présidentielles auront lieu des élections législatives en 2025, et donc se pose la capacité d'action, en quelque sorte l'objectif de la Russie est de mettre Maia Sandu en situation de difficulté d'action, c'est-à-dire de ne pas être en mesure de mettre en place son projet de réforme interne en lien avec l'intégration européenne.
Alors, d'élections, on va parler effectivement maintenant. Vous l'avez dit, Florent Parmentier, la Moldavie organise à l'automne l'élection présidentielle dans laquelle Maia Sandu remet son mandat en jeu. Elle est jeune, hein, Maia Sandu. On va parler de la tournée qu'elle a faite en Europe et son passage en France. Céline Bayou, elle organise aussi à l'automne, la présidente moldave, un référendum à l'adhésion à l'Union européenne. C'est un choix et une décision sur lequel vous avez quelque chose à nous dire précisément. Elle prend un risque, Maia Sandu, avec ce référendum jumelé avec l'élection présidentielle, Céline Bayou.
Oui, à mon avis, elle prend un risque. Le processus, il est intéressant parce qu'elle est arrivée donc fin 2020 au pouvoir. Et aussitôt, il y a eu une réorientation vraiment de la politique étrangère du pays. Et elle a vraiment présenté l'enjeu de l'adhésion du pays à l'UE comme relevant vraiment d'une démarche existentielle, en fait, pour la Moldavie. Donc ça a été un retournement assez radical. La demande d'adhésion a été déposée en mars 2022. Ensuite, le statut de candidat a été accordé par l'Union. Et puis, l'autorisation donc d'ouvrir les négociations donnée au pays en décembre 2023. Donc là, on est vraiment dans un processus très avancé et elle a décidé, en effet, simultanément à l'élection présidentielle, d'organiser ce référendum, ce qui est, je trouve, tout à fait admirable dans une démarche démocratique, ce qui, évidemment, lui donnera une certaine légitimité si elle réussit, mais elle prend un gros risque parce qu'en fait, la population est très divisée sur cette question et c'est pas tout à fait gagné. Les sondages en général, ils sont aux alentours de 50, 52, 55% pour l'UE, selon les moments. Alors, le moment n'est pas trop mauvais, je pense, aujourd'hui, parce que économiquement, les choses vont quand même moins mal qu'elles n'ont été il y a à peu près un an, quand il y a eu vraiment le choc après-guerre, et notamment, il y a eu un choc d'inflation, un choc énergétique, etc., qui fait que le pays a vraiment traversé, notamment l'hiver 2022-23 a été très, très compliqué. Et donc, du coup, c'était tout à fait utilisé, notamment par les pro-russes ou les anti-UE, en tout cas, pour dire que voilà, le pays n'était pas sur la bonne trajectoire. Je pense que les choses vont mieux. Est-ce qu'elles iront ? Il faut vraiment que ça tienne comme ça jusqu'à l'automne prochain, au moins. Et il faut qu'elles réussissent à convaincre du fait que c'est le bon choix. Donc, si ça passe, ce sera très, très bien pour elle, parce qu'elle arrivera vraiment avec une légitimité et un certain confort. Mais ce n'est pas complètement gagné pour elle.
Alors, Florent Parmentier, on peut rappeler qu'en juin 2022, l'Union européenne a accepté l'Ukraine et la Moldavie comme candidats à l'adhésion à l'Union européenne, d'où ce référendum. Vous étiez il y a quelques jours en Moldavie. Quelle est la température, quelle est l'ambiance par rapport à ce que nous évoquons ?
Premier élément qui frappe, je pense que il y a une forme d'inquiétude vis-à-vis de la situation, d'anxiété, c'est peut-être le meilleur terme, anxiété dans le sens où, grosso modo, ce qu'on sent du côté moldave, c'est que l'évolution du conflit en Ukraine est finalement en dehors du contrôle de la Moldavie. La Moldavie n'a pas de capacité d'armes particulières à envoyer, et donc elle voit ce conflit à côté qui réveille des souvenirs douloureux de 1992, de ce conflit qui avait lieu et qui avait duré beaucoup moins longtemps, était beaucoup moins intense en termes de combat que ce que connaît aujourd'hui l'Ukraine. Mais disons qu'il y a cet élément mémoriel, en quelque sorte, qui est un point. Et puis, il y a une forme d'inquiétude, effectivement, assez sourde, sans avoir le sentiment de pouvoir totalement réussir son destin. Donc, il y a le combat entre cette forme de pessimisme qu'on peut observer sur le front en Ukraine, ne sachant pas très bien où s'arrête l'Ukraine, en tout cas où s'arrête le front en Ukraine. Pour être exact, on sait quelles sont les frontières internationales de l'Ukraine, mais on ignore aujourd'hui où s'arrêtera le front et dans quelles conditions s'arrêtera. Donc il y a cet élément majeur qui est celui-ci. Ensuite, il y a une dose d'optimisme. Cette dose d'optimisme, c'est lié tout simplement au progrès extraordinaire que la Moldavie a réussi à faire en 2 ans.
C'est-à-dire ?
Finalement, si on regarde les choses très précises, au début de la présidence française de l'Union européenne, au 1er janvier 2022, l'idée que la Moldavie soit reconnue comme un État candidat quelques mois plus tard était une hypothèse forte. C'est-à-dire, ce n'était pas le scénario le plus probable. On aurait pu saluer un certain nombre de points. Le fait, en revanche, que la Moldavie, dans ce domaine viticole de Bolboaca, donc a accueilli le second sommet de la communauté politique européenne, initié par le président Macron, a été un signal très fort, j'allais dire, de confiance de la part des autorités françaises et de la part d'une relation franco-moldave qui n'a probablement jamais dans l'histoire été aussi bonne. Je pense qu'on peut reconnaître au président Macron sans difficulté le fait qu'il fait partie des interlocuteurs aujourd'hui recherchés en Moldavie et qui compte dès lors que la situation est évoquée. D'où l'intérêt de beaucoup d'interlocuteurs moldaves par rapport à la question de savoir quel était le type de soutien qui allait être apporté par l'armée française. Il faut rappeler que donc, les propos d'Emmanuel Macron étaient entendus sur place et que par ailleurs, un autre élément de la discussion est le fait que pour la première fois, la France va dépêcher dans son ambassade à Chisinau, un attaché de défense, et que ça, c'est quelque chose de nouveau.
Effectivement, Maya Sandu était en visite en France en mars dernier, et un partenariat de défense a été signé avec Paris,
oui.
D'où ce que vous évoquez.
Voilà, d'où la présence, effectivement.
Tout récent, tout nouveau, et
Et c'est quelque chose qui, c'est un sujet qui, dans l'histoire, était surveillé soit par l'attaché de défense de Moscou, soit par l'attaché plus récemment de défense en Roumanie, mais qui n'était pas pris en compte. On a vu également que la France avait ouvert au 1er février 2022, quelques jours, trois semaines avant le début de la guerre, une antenne de l'AFD, l'Agence française de développement. Donc on voit effectivement comment cette relation, en tout cas, il y a un partenariat franco-moldave qui prend plusieurs formes. Et donc, il y a à la fois cet élément-là, je pense, d'optimisme, c'est-à-dire, malgré tout, la Moldavie a un soutien international qu'elle n'a jamais connu autour de son histoire, mais des dangers à ses frontières qui n'ont jamais été aussi grands. Mmh. C'est ça, en fait, ce qu'on peut sentir comme forme d'anxiété. Avec, là aussi, une question qui est celle des élections présidentielles de novembre prochain. Et là-dessus, je rejoins ce que disait Céline Bayou, à savoir que ça sera une élection intéressante, une élection à suivre. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, la personnalité de Maya Sandu, en quelque sorte, est la plus suivie, la plus populaire. En tout cas, s'il y a des intentions de vote pour dimanche prochain, c'est celle qui a tout de suite, instantanément, le plus de votes à disposition. Avec un questionnement qui est celui de ce qu'on peut appeler le taux d'opposition, à la fois de très forts partisans et en même temps beaucoup, une partie significative de l'opinion publique lui reproche un certain nombre de comportements politiques, d'attitudes, etc., qui font que son élection est probable en novembre prochain, en dépit de tout ce que pourra tenter la Russie, mais que sa majorité législative derrière n'est pas garantie.
Oui, d'où la difficulté à gouverner. Je reviens avec vous, Céline Bayou, sur le rôle de la France à l'égard de la Moldavie. Une raison particulière qui fait que le président Macron se soit finalement penché sur le berceau de la Moldavie. Et au-delà de cela, est-ce que, d'après vous, les Européens ont suffisamment conscience des enjeux liés à la Moldavie, qui me paraît, moi, aujourd'hui, tout de même un élément très, très fort, Céline Bayou?
Oui, je crois que la prise de conscience des enjeux, elle est vraiment en train de monter en puissance. Alors oui, la France... est-ce que la France a été précurseur? Je pense que le partenaire naturel, évidemment, de la Moldavie, c'est avant tout la Roumanie, bien sûr, parce que à la fois l'histoire, la géographie font un certain nombre de choses. Florent Parmentier a souligné en effet la signature c'est un accord intergouvernemental en fait, qui a été signé entre la Moldavie et la France en mars dernier, qui fixe un cadre juridique en fait à la coopération de défense entre les deux pays, qui va se décliner avec un certain nombre d'actions, dont notamment en effet le fait que l'attaché de défense qui a été nommé et qui suivait la Moldavie depuis l'été dernier va incessamment sous peu s'installer à Chisinau, ce qui est un signal fort et qui n'est pas que symbolique parce qu'on travaille différemment évidemment quand on est sur place. Après, je pense qu'il y a aussi l'initiative du président français à l'égard de l'Ukraine, notamment le 26 février dernier quand il a réuni un certain nombre donc de chefs d'État et de gouvernement à Paris pour une conférence de soutien à l'Ukraine. À l'occasion de cette conférence, les pays se sont mis d'accord, il y a un consensus qui s'est dégagé sur 8 axes principaux de développement du soutien à l'Ukraine. Et parmi eux, il y a en effet le renforcement en fait, du soutien aux pays qui sont menacés par cette guerre. Et en fait, on voit très bien que la Moldavie est en tête, est fixée comme une priorité en fait, de ce soutien. Alors, pour des raisons qu'on comprend bien, c'est-à-dire qu'il y a la proximité, puisqu'elle a une frontière avec l'Ukraine et qu'elle est particulièrement concernée. Du point de vue de la France, je pense qu'il y a en plus le fait que comme la France est très présente en Roumanie et qu'elle a pris notamment un rôle de nation cadre de l'OTAN dans un déploiement, le fameux renforcement du flanc Est, etc. Du coup, naturellement, elle a un regard qui se porte sur la Moldavie qui paraît assez logique. Et puis, parce qu'il y a aussi une évaluation du risque et des menaces qui pèsent sur la Moldavie et une volonté de répondre aussi à une demande. C'est-à-dire que les Moldaves sont aussi en demande alors vis-à-vis de la France, notamment vis-à-vis d'autres pays européens. Les Pays-Bas ont signé un accord il n'y a pas très longtemps. Les États-Unis aussi sont quand même assez actifs. Et ce que je note aussi, c'est le fait que la Moldavie a adopté en fin d'année dernière une stratégie de sécurité nationale. C'est la première fois qu'elle adopte un tel texte et dans lequel elle fixe à la fois ses priorités et des priorités de menace. Bon, et tout naturellement, on ne sera pas étonné de voir que la Russie apparaît comme une menace principale. Mais elle évoque aussi la question de la neutralité, puisqu'on ne l'a pas souligné, mais quand même dans la constitution moldave, il y a un principe de neutralité permanente. Il ne peut pas y avoir de déploiement de troupes étrangères sur le territoire moldave. Et je note que deux choses dans ce texte. La première chose, c'est qu'elle fixe ses priorités de coopération. Donc la Roumanie arrive en tête, mais la France est très très bien positionnée. On sent qu'il y a vraiment une connexion entre la France et la Moldavie qui est très forte. Et la deuxième chose sur la neutralité, qui moi me laisse un tout petit peu, attentive en tout cas, elle ne remet pas en cause la neutralité de la Moldavie, mais elle souligne, il est bien souligné dans le texte que le constat est fait que certains pays qui jusque-là étaient neutres ont décidé depuis février 2022 de ne plus être neutres, l'allusion évidemment à la Suède et à la Finlande. Donc il y a aussi peut-être une interrogation à avoir sur la posture de la Moldavie dans les années qui viennent ou les mois qui viennent sur cette question. Et toute dernière chose sur la relation franco-moldave, je pense qu'il y a aussi un très bon contact entre la présidente et Maya Sandu et le président Macron qui se sont rencontrés à plusieurs reprises et je pense qu'ils parlent la même langue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une compréhension qui s'est faite tout de suite avec des objectifs qui sont très clairs quoi, de part et d'autre.
En tout cas, Florent Parmentier, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Céline Bayou, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Ce que je comprends aussi, c'est que de la part de la Russie, une grande campagne de subversion en Moldavie est évidemment à attendre. Pour Moscou, qui veut donc peser sur ces scrutins présidentiels et puis référendum à l'adhésion à l'Union européenne, pour Moscou, Florent Parmentier, c'est le moment ou jamais d'essayer de tout faire pour peser sur l'issue du scrutin et maintenir la Moldavie loin de l'Union européenne.
J'ai envie de dire que cette politique a déjà eu lieu depuis 30 ans. Donc c'est à la fois maintenant, mais ça a été une politique assez constante en réalité de la Russie depuis l'indépendance. Mais oui, si vous voulez pointer du doigt le fait que probablement l'action en Russie, de la Russie en Moldavie sera importante dans les prochains mois, je pense que c'est ce à quoi les Moldaves sont préparés et ont déjà commencé à travailler en quelque sorte à notamment dénoncer en août dernier le fait qu'il y avait des dizaines de personnes littéralement à l'ambassade de Russie dont le principal objectif consistait à espionner toutes les communications qui avaient lieu en Moldavie, de montrer également donc les différents transferts d'argent qui se font au niveau des partis politiques, les différentes modalités à travers lesquelles tout simplement la Russie entend déstabiliser le pays, avec là aussi depuis l'an passé une mission européenne qui avait été mise en place, la mission de l'Union européenne sur les partenariats, qui permet normalement de renforcer ce qu'on appelle la capacité administrative des autorités moldaves, à savoir leur capacité à différents niveaux, tout simplement de pouvoir faire face aux différentes menaces qui apparaissent.
Alors, j'en reviens à la question que j'ai posée à Céline Bayou et je n'ai pas eu votre réponse à vous. La question de cette organisation d'un double scrutin, référendum et présidentiel, est-ce que Maya Sandu n'aurait pas dû se satisfaire d'un scrutin présidentiel et puis laisser à plus tard le référendum à l'adhésion à l'Union européenne, Florent Parmentier?
Très brièvement, je pense qu'il faut l'analyser en deux temps. Il y a le fait d'abord de prévenir ses partenaires internationaux et de montrer une forme de dévouement à la cause européenne qui est réelle, qui est importante et qui contraste peut-être avec notamment certains États au sein d'Europe du Sud-Est, pays des Balkans, pour lequel il y a eu une promesse en 2003 de faire partie de l'élargissement et puis qui attendent toujours à la porte. Donc il y a ce premier élément. Second élément, très brièvement, il y a des dynamiques politiques internes en Moldavie et le fait de mettre le même jour un référendum et une présidentielle consiste en quelque sorte à pouvoir diviser l'opposition, à dire écoutez, soit vous êtes sur les enjeux européens et à ce moment-là vous savez pour quelle présidente il faut voter puisque c'est moi qui le porte, soit vous n'êtes pas vraiment pour des questions européennes. Donc c'est une manière de politiser la question européenne avec à la fois des risques et puis très certainement aussi une stratégie que Maya Sandu et son entourage estiment gagnante pour novembre prochain.
En tout cas, donc, des scrutins que nous suivrons dans Géopolitique. Merci Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po, auteur de Les chemins de l'état de droit et co-auteur avec Josette Durieux de la Moldavie à la Croisée des Mondes. Et merci aussi à vous, Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO, chercheur associé au CREE, le Centre de recherche Europe-Asie de l'INALCO, rédactrice en chef de Regards sur l'Est. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Olivier Roux. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.